Bonjour et bienvenue à tous. Nous continuons nos émissions sur les vertus et les vices, c'est-à-dire sur notre vie chrétienne, sur notre vie de foi dans le Christ. Nous avons commencé la dernière émission avec une introduction aux sept vices capitaux et nous avons parlé de l'orgueil, le premier des vices. Aujourd'hui, donc après l'orgueil, nous allons voir un autre vice capital, c'est-à-dire qui est à la tête d'autres péchés. Nous avons vu que l'orgueil est la racine de tous les péchés. C'est le péché originel, aussi bien du démon que de l'homme. Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'avarice. Et pour l'avarice aussi, saint Paul est très clair dans sa lettre à Timothée. La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. À la fin de cette émission, nous allons écouter la citation complète. Mais c'est une phrase à retenir de saint Paul. La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Ce vice de l'avarice, on peut l'appeler aussi cupidité, avidité, âpreté du gain. C'est-à-dire, c'est le désir irrésistible d'avoir de l'argent. Voici quelques citations qui nous aident à comprendre un peu mieux. Jésus dira dans l'évangile de Matthieu, « Où est ton trésor, là est ton cœur. » Rappelez-vous l'histoire de saint Antoine de Padoue, lors du décès d'un homme avare. Il dit que le cœur de cet homme n'est pas dans sa poitrine, mais dans son coffre-fort. Et effectivement, sa poitrine était vide, et quand on ouvre le coffre-fort, voilà le cœur de l'avare. Jésus dit aussi, « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Dans le texte grec, on dit pour argent, on dit « mammon », c'est-à-dire c'est le nom de l'idole de l'argent donné par les païens. Ou le psaume 49 qui dira, « L'homme comblé ne dure pas, il ressemble au troupeau qu'on abat. » Mes frères, l'argent est un instrument, un moyen. Il n'est ni bon ni mauvais, c'est un moyen. On peut et on doit l'utiliser avec liberté, avec discernement. L'argent est aussi le symbole de toutes les idoles. L'argent est le symbole du prestige, du pouvoir, du sexe, de l'estime des autres. Car on a l'impression qu'on peut tout acheter quand on a des sous. Dans le monde, on a cette impression. On peut tout acheter. Des personnes, des objets, tout quand on a des sous. C'est le moteur du monde de l'argent. C'est ce qui le fait marcher. Et la cupidité, donc cette avarice, ce désir de posséder, la cupidité, dira saint Paul, est une idolâtrie. L'animal associé à l'avarice, vous comprendrez pourquoi, c'est le renard qui est très rusé pour tirer profit de tout. Il y a des gens qui savent tirer profit de tout. Ou alors la taupe, qui est aveuglée parce qu'elle ne voit, ou nous, quand on est avare, on ne voit rien d'autre que l'accumulation. On ne pense qu'à ça. Argent, argent, argent. Il y a un père du désert qui s'appelle Saint Esaïe de Gaza. On parle beaucoup aujourd'hui de Gaza, malheureusement. Et ce père du désert, parce qu'il y avait beaucoup de moines dans cette région, de Gaza. Et il avait écrit un livre, Saint Isaïe, qui s'appelle « Les rameaux de la malice ». Et en parlant de l'avarice, il dit « Qu'est-ce que l'avarice ? C'est que tu ne crois pas aux promesses de Dieu, que tu aimes le confort, que tu désires la gloire mondaine, que tu aimes être sans pitié vis-à-vis des autres, que tu aimes la vaine gloire, que tu ne tiens pas compte des autres, que tu manques de conscience, que tu ne fais pas attention au jugement de Dieu. » C'est intéressant, parce que l'avarice, donc, a un rapport avec cette idolâtrie qu'on peut avoir vis-à-vis de l'argent, donc en mettant l'argent à la place de Dieu, mais aussi c'est un vice qui fait du tort à l'autre, aux autres. Puisqu'évidemment, quand on n'est pas généreux, quand on ne veut pas donner, quand on ne veut pas aider l'autre matériellement, on montre bien que, vous, comme dit saint Isaïe de Gaza, on montre bien qu'on est sans pitié, qu'on manque de conscience, qu'on ne tient pas compte des autres. Mes frères, être accumulateur peut être aussi une sorte d'avarice. Vous savez, les prophètes dans l'Ancien Testament, notamment Amos, Michée, Isaïe, 8e siècle avant le Christ, dénonçaient déjà avec force ce péché d'accumulation, accumuler maison sur maison, dira Amos. On pourrait aujourd'hui ajouter accumuler voiture sur voiture, propriété sur propriété. Donc il dénonçait avec force ce péché dans le royaume du nord d'Israël. Et pourquoi est-on avare? Pourquoi quelqu'un devient-il avare? Il s'agit bien sûr tout d'abord d'un problème de confiance en Dieu d'un côté. On a la peur de manquer, on ne fait pas confiance à la providence, de ce que Dieu ne nous abandonnera jamais, qu'il est notre Père, qu'il nous aide, qu'il ouvre les portes pour le travail, pour l'aide, pour l'entraide. Non, on a peur de manquer. Donc il y a tout d'abord, au fond, il y a un problème de confiance. Et ensuite, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, il y a un problème de compassion. De l'autre côté, on est indifférent face aux souffrances des autres. Et mes frères, le remède à l'avarice, vous l'aurez peut-être compris, c'est bien sûr tout d'abord l'aumône. L'aumône, faire un geste fort, tu as intérêt à le faire puisque tu reçois les centuples, nous dit le Seigneur. Donc faire un geste fort, parfois non pas seulement 2 euros ou 3 euros à la sortie de l'église, mais peut-être un jour, je ne sais pas, librement, chacun comme il voudra, mais librement faire un geste un peu plus conséquent. On ne peut plus, voyez, qu'il puisse marquer ta vie. Ça aussi, c'est un combat très grand contre l'avarice. C'est s'éprouver soi-même. Ou par exemple, saler toujours son argent. J'aime beaucoup cette expression, saler son argent en restituant, les prémices à Dieu. En reconnaissant que tout ce que tu as, c'est lui qui te l'a donné. Donc le fait que, je ne sais pas, il y en a qui font ça, de son salaire, prendre une part pour donner aux pauvres, etc., pour aider quelqu'un, même si c'est une petite part, hein, personne ici ne parle de grandes sommes, mais même si c'est une petite partie, ça peut t'aider à saler son argent, c'est-à-dire à mettre un grain de sel, un peu de sagesse, un peu de discernement là-dedans. Et le Seigneur, après tout, nous appelle à être libres. Je connais quelqu'un, une personne, une fois, qui était sur une place et on lui avait fait cadeau de beaucoup d'argent. Vous savez, peu importe ce qu'il avait fait de bien pour les autres, et on l'avait remercié en donnant beaucoup d'argent. Tout de suite après que quelqu'un lui a donné cet argent, un SDF, quelqu'un qui passait dans la rue, qui n'était pas au courant, bien évidemment, de tout ça, arrive et lui demande un peu de sous, lui demande quelque chose. Cette personne, avec toute la liberté que le Seigneur lui a donnée, n'a pas hésité une seconde. Elle a pris toute la somme qu'on lui avait donnée et a donné directement, intégralement, au SDF, à la personne démunie qu'il avait en face. Vous pouvez imaginer bien que cette personne a commencé à sauter de joie et celui qui lui a donné de l'argent lui disait « Tu vois comment Dieu t'aime, comment tu t'appelles ?» Et il commence un dialogue avec cette personne qu'il a pu aider, non pas par orgueil, par vanité, mais tout simplement par liberté. On lui a donné cet argent, ce n'est pas lui qui a cherché, et de même, il a pu partager ça avec les autres. Saint Paul le dira « Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans le besoin ». Dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 12. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de misère. Dieu ne veut pas qu'on soit dans la misère, pas du tout, mais de liberté. Il y a beaucoup de riches, si vous réfléchissez, par exemple, Job dans la Bible, nous savons combien Job va être éprouvé. Job est riche. Beaucoup de saints dans l'histoire de l'Église. Regardez tous les saints canonisés. Ce serait un beau travail à faire de regarder un peu à quelle classe appartenaient les saints de l'histoire de l'Église et les saints canonisés, bien sûr. Il y a beaucoup de saints anonymes, nous sommes bien d'accord. Mais de voir à quelle classe sociale ils appartenaient. Il y a beaucoup de saints qui sont nobles, qui sont riches, mais ils ne sont pas esclaves de cet argent. Soit ils l'ont donné, soit ils l'ont partagé, soit ils ont su l'utiliser pour l'évangélisation, etc., etc. Alors, mes frères, on pourrait voir aussi quel est le lien de l'avarice avec les autres vices capitaux. Regardons le lien de l'avarice et de l'orgueil. Car quand on a de l'argent, on se croit tout-puissant et autonome. L'avarice peut nourrir ton orgueil. On se croit autonome, on croit qu'on a besoin des personnes, on se croit tout-puissant. La luxure. On peut, avec l'avarice, penser qu'on peut se payer tous les plaisirs, même les plus bizarres. Et on sait malheureusement comment des gens très puissants et très riches peuvent se donner à des pratiques vraiment dégradantes pour la personne humaine. L'envie aussi, parce qu'on peut avoir de l'envie vis-à-vis de ceux qui ont plus que toi, que moi. La colère, combien de disputes à cause de l'argent? les héritages, les divorces à cause d'argent, les frères, les cousins qui ne se parlent plus, combien de disputes à cause de l'argent. Bref, quand il s'agit de l'argent, le diable se met toujours au milieu.
Alors, Père, peut-être ce serait bien de pouvoir connaître un petit peu quels sont les péchés qui sont justement dérivés de ce vice.
Oui, très bien. C'est vrai que, comme on disait déjà pour l'orgueil, on parle ici de sept vices capitaux, c'est-à-dire des faiblesses, des penchants, des tendances qu'on peut avoir et qui ensuite peuvent amener à des péchés concrets. Donc, pour l'avarice aussi, elle est un vice qui peut nous amener à des péchés très concrets et parfois très graves, comme le vol. On peut avoir cette tentation de voler pour avoir plus d'argent. L'usure, vous savez, prêter de l'argent à un taux exagéré, en exploitant ainsi ceux qui souffrent déjà. Il y en a qui sont dans la misère, qui sont dans le besoin, qui demandent de l'argent, qu'on prête de l'argent, et ensuite on met le taux d'intérêt à une hauteur inatteignable, et la pauvre personne qui souffre déjà se voit dans une misère qui n'en finit plus. Vous voyez ? L'escroquerie, bien évidemment, par avarice, l'arnaque, la tricherie, etc. Regardez combien dans la Bible, le livre du Lévitique, ou les prophètes comme Amos, Isaïe, que j'ai déjà cité tout à l'heure, mettent en garde contre les poids, les mesures et les balances faussées dans le commerce, pour tirer un profit malhonnête des clients. C'est une, selon l'expression de la parole de Dieu, c'est une abomination aux yeux du Seigneur. Dans la Bible, je ne sais pas si vous savez, ce mot abomination est réservé à très peu de péchés, vraiment des péchés très graves aux yeux de Dieu, les mots abomination. Et à ce péché-là concret, le prophète va dire, c'est une abomination aux yeux du Seigneur que de vouloir tirer un profit malhonnête des clients. C'était à l'époque, ils étaient, c'est pas comme aujourd'hui, tout électronique, encore que nous savons qu'on peut fausser aussi des appareils électroniques, mais ça devient plus précis et plus facile d'être vérifié, contrôlé par les institutions compétentes. Mais à l'époque, nous savons très bien, beaucoup peut-être se rappellent, depuis l'époque biblique déjà, il y avait des balances sur lesquelles on mettait de petits poids pour pouvoir savoir combien de blé, combien de fruits, combien de raisins il y avait dans la vente, dans la transaction commerciale. La même chose pour les tissus. Donc on prenait des règles. Disons, aujourd'hui, on parle de mètres. À l'époque, il y avait d'autres unités de mesure. Mais aussi, on prenait une unité de mesure pour savoir quantifier le tissu, le morceau de tissu, et donner un prix. Or, beaucoup à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils diminuaient un tout petit peu, pas besoin de diminuer en beaucoup, hein, un tout petit peu la mesure du tissu, par exemple, ou prenaient un poids qui n'équivalait pas vraiment au poids standard, disons aujourd'hui les kilos, et ils prenaient un petit poids de 900 grammes, par exemple, et comme ça, ils trichaient et ils avaient un peu plus d'argent, ils gagnaient un peu plus sur la confiance de leurs clients. Donc ça, le Seigneur dit, c'est une abomination que de tricher, que de tromper son frère dans cet aspect de l'argent. Donc il faut faire très attention. Parfois, on peut penser que dans la vie spirituelle, dans notre vie chrétienne, toute la question est du cœur, l'importance et les sentiments que j'ai, l'importance. Non, c'est très concret. Ça a des impacts sur notre vie quotidienne, notre vie professionnelle. Et malheureusement, pour beaucoup, il y a un divorce entre la vie de foi et la vie professionnelle. Donc dans l'Église, je suis une chose. Après, ce que je fais dans mon travail, mon père, n'y entrez pas dedans. C'est une autre chose. Je ferai ce que je peux, ce que je dois faire. Et on sépare le monde du travail, le monde de la famille, le monde de l'Église, de la vie religieuse, etc. Non, pas du tout. Nous sommes des êtres unifiés. Notre rapport à Dieu ne va pas sans notre rapport à l'autre, sans notre rapport à l'argent, sans notre rapport à notre famille, etc., etc. Donc, c'est très important. C'est tellement important, cette question de l'argent, qu'à ses apôtres, Jésus, quand il les envoie en mission, il va dire qu'il devait partir en mission sans bourse, ni sandales, ni rechange de tunique. Non pas parce que ce soit des choses méchantes, pas du tout, vous comprenez, mais pour que les hommes, en voyant qu'ils partaient sans rien annoncer l'évangile, puissent croire. Alors, ils ne sont pas intéressés, ils ne sont pas là en train de faire, je ne sais pas quoi, du commerce, du théâtre, non. Ils sont là pour annoncer vraiment la parole. D'où l'importance de cette précarité. Et mes frères, Jésus-Christ, nous dira saint Paul, de riche qu'il était, est devenu pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté. De riche qu'il était, c'est-à-dire Dieu. Il est devenu pauvre, il s'est fait homme pour nous enrichir par sa pauvreté. Il n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il n'a pas été avare, donc, puisqu'il n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, il s'est appauvri, on pourrait dire, et il se fit homme comme nous pour nous sauver. Bien, mes frères, je voudrais maintenant vous lire trois extraits de la parole de Dieu qui, beaucoup plus de ce que je puisse dire, nous éclaire, bien entendu, sur l'avarice, ce vice que nous abordons aujourd'hui. Un extrait du livre du Siracide, donc un livre de l'Ancien Testament, appelé aussi le livre de l'Ecclésiastique, il y porte deux noms. Et ensuite, on va écouter un extrait de saint Paul que je vous ai promis depuis le début de l'émission, avec cette phrase très frappante. Et pour terminer, bien sûr, un extrait de l'Évangile avec les mots mêmes de Jésus. Commençons donc par cette première lecture du livre de Ben Sirac le Sage. La richesse ne sied pas à l'homme mesquin. Et pour l'homme envieux, quelle fortune suffirait? Qui amasse en se privant, amasse pour autrui. Avec ses biens, d'autres vivront dans le plaisir. Celui qui est dur pour lui-même, pour qui sera-t-il bon? Il ne jouira même pas de sa fortune. Nul n'est pire que celui qui se ronge d'envie, il reçoit le salaire de sa perversion. S'il fait le bien, c'est par mégarde, il finit toujours par laisser voir sa méchanceté. Il est vil celui qui a l'œil envieux, qui détourne son regard et méprise les gens. L'œil de l'avare n'est pas satisfait de ce qui lui revient. Une avidité malsaine dessèche l'âme. L'avare est chiche de pain, il en manque lui-même à sa table. Mon fils, fais-toi plaisir avec ce que tu as et présente au Seigneur des offrandes dignes de lui. Souviens-toi que la mort ne tardera pas et que l'heure fixée ne t'a pas été révélée. Avant de mourir, fais plaisir à tes amis, sois généreux, donne à la mesure de tes moyens. Ne te prive pas d'un jour de bonheur, ne refuse pas ta part de satisfaction. Ne devras-tu pas laisser à d'autres le fruit de tes peines? Le produit de ton labeur ne sera-t-il pas tiré au sort? Donne, reçois, distrais-toi. Toute chair se fripe comme en vêtement, c'est la loi depuis toujours. Tu dois mourir. Comme parmi les feuilles d'un arbre touffu, les unes tombent, les autres poussent. Ainsi font les générations de chair et de sang. L'une meurt et l'autre naît. Toute œuvre corruptible disparaît et son auteur s'en va avec elle. Voilà un premier extrait du livre du Siracide, qui est très fort, vous l'aurez compris, et qui donc doit être aussi éclairé, complété par le Nouveau Testament que nous allons écouter maintenant. Tout d'abord, un extrait de la première lettre à Timothée, de saint Paul, donc, son chapitre 6, versets 7 à 10. De même que nous n'avons rien à porter dans ce monde, nous n'en pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. voyez, commençant pour l'éclair, la racine de tous les maux, nous avions déjà vu, mais il complète en disant, pour s'y être attaché, certains se sont égarés loin de la foi. C'est vrai, beaucoup s'éloignent de la foi juste parce qu'ils ne pensent qu'au travail et à l'argent, en disant, je penserai à Dieu quand je serai à la retraite. Et ensuite, il dit, ils se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Là aussi, c'est vrai, hein. On peut être séparé de la famille, on peut ne pas dormir de la nuit, on peut faire beaucoup de choses à cause de ce souci de posséder, le souci de l'argent, de l'avoir, etc. Et pour conclure cette émission, je vous invite là à écouter les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile selon saint Matthieu. C'est au cœur du sermon sur la montagne où le Seigneur va parler non pas seulement d'amour et de pardon, mais des choses très terre à terre. Il va nous parler maintenant d'argent et de confiance. De l'Évangile selon saint Matthieu. Ne vous amassez point des trésors sur la terre, où la mite et le ver consument, où les voleurs percent et cambriolent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Là, point de mite ni de ver qui consument, point de voleurs qui perforent et cambriolent. Car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Nul ne peut servir deux maîtres, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux ? Qui d'entre vous, d'ailleurs, peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie ? Et du vêtement, pourquoi vous inquiéter ? Observez les lys des champs, comme ils poussent. Ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ? Qu'allons-nous boire ? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Une bonne journée à tous.